Le marché action américain est-il à nouveau trop cher? Alors que le S&P 500 est autour de son record historique, et quid des stars de l'intelligence artificielle sur le marché action? Et de manière générale, y a-t-il encore des actions et au sein de quels secteurs qui sont bon marché? Point complet sur la valorisation du S&P 500. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023. Le marché action, après cette remontada verticale qui a commencé fin octobre, est revenu. Or qu'il s'agisse, alors je mets de côté le SMI, mais je prends les indices boursiers de la zone euro, le CAC 40, le DAX, prenons le S&P 500. Tous ces marchés sont revenus au contact de leur record historique. Revenus au contact de leur record historique, alors que le marché joue à plein régime le pivot des banques centrales en 2024, et un pivot agressif. Nous venons de vivre la semaine dernière, vous l'avez probablement vécu avec moi, une semaine chargée sur le plan des fondamentaux, qui pourtant, alors en Europe, oui, l'inflation est vaincue, il n'y en a plus, mais c'est la récession en Europe. Aux États-Unis, l'inflation mise à jour la semaine dernière montre que, certes, elle ralentit, mais en version sous-jacente, elle est toujours deux fois la cible de la Fed. Et pourtant, Monsieur Jérôme Powell, mercredi dernier, a surpris le marché dans le bon sens. Cette fois-ci, la Fed acte qu'elle a atteint son taux terminal à 5,50 et la Fed mentionne dans la mise à jour de ses perspectives macroéconomiques pour 2024 et même la mise à jour de ses projections monétaires, elle mentionne 3 baisses de taux. Et dans un monde merveilleux, peut-être de bisounours, 3 baisses de taux, parce que ça désinflationne, et elle a même revu en haut ses anticipations de croissance économique. Donc, pas de hard landing, pas de récession, mais de la désinflation. C'était le sujet du Top Gun de la semaine dernière. Et voilà qui a permis, même d'ailleurs au small et mid cap, de commencer à fortement, fermement rattraper le S&P 500. Le S&P 500, alors certes, si on lui retire ses 7 ou 8 stars de la tech, et en particulier d'ailleurs, là je vous fais un focus, sur l'intelligence artificielle, le sujet, c'est le S&P 500 est-il à nouveau trop cher? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous fais un mot rapide sur ce pivot quasi certain. Oui, quasi certain. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est Jérôme. Enfin, Monsieur Powell. Sir Powell, pardon. Deuxième partie, le S&P 500 est-il trop cher selon les critères de valorisation boursière? On se refait tout. Le price earning, le PE chiller, le PE forward, le price to book, le price to sell. On va même aller voir du côté de Warren Buffett, qui a ses indicateurs de valorisation. Les bénéfices des entreprises anticipés pour 2024, tout en haut, ils viennent d'être mis à jour. Vous allez voir, c'est fantastique. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, mais pas que. Il y a du sérieux aussi. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ces anticipations de bénéfices restent si optimistes. Et vous allez voir qu'elles ont intérêt à se conformer aux anticipations dans la réalité. Parce qu'en termes de valorisation, le marché action, oui, il commence à être cher. Même en tenant compte des bénéfices estimés très, très, très élevés. Donc, on va regarder ça, et puis on va regarder dans les détails. Quels secteurs? Les actions sont bien réparties dans des secteurs. Quels secteurs sont chers et pas chers? Par exemple, le secteur de l'IA. Tout le monde joue l'intelligence artificielle. L'AI en anglais, tout le monde joue l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'il y a des valorisations. Dans les stars de la tech US de l'IA, il y en a qui se payent 50, 60, 70 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Mais je vous en ai trouvé une petite. Une des stars qui se paye moins cher que les autres. Vous allez voir, c'est la dernière. Bon, on va parler de ça. Et puis, voilà, les small caps, le S&P 500 avec ses 7 fantastiques ou 8, et le S&P 500 équipondéré, le Russell 2000, où ce beau monde en est sur le plan technique. Eh bien, on attaque, mes amis. Bonne vidéo. Le S&P 500 est-il à nouveau cher? Quid des stars de l'intelligence artificielle? Donc dans cette vidéo, on se refait pas comme d'habitude, on se refait de la théorie, mais je prends le temps de vous montrer non seulement alors comment ça marche la valorisation, mais je vous montre aussi où je vais chercher les datas. Donc le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, je vous l'avais montré à l'instant. Et puis donc on déroule, j'essaye de faire court pour plaire à vos majestés. Et le pivot de la Fed est désormais certain pour l'année 2024. Alors me direz-vous, Monsieur Gall ne prend peut-être pas suffisamment de pincettes, mais c'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi, pardon, qui affirme que ce pivot est certain. Non, c'est pas moi. Non, non. Vous voulez une preuve ? Je vous la donne tout de suite. Oui, effectivement, ce n'est pas moi qui affirme que ce pivot est certain. C'est la Fed. Alors, la semaine dernière était hyper chargée. Je vous mets ici tout de suite le tableau de la Fed. Ce ne sont pas les anticipations du marché. C'est ce qu'anticipent les équipes de M. Jerome Powell, président de la Fed, pour 2024. Regardez comme ce monde est merveilleux. Non seulement du côté du taux de l'intérêt de la Fed, le taux des Fed Funds, et vous avez la comparaison avec ce que la Fed anticipait en septembre. Eh bien, désormais, 3 baisses de taux attendues en 2024 et 3 de plus en 2025. Bon, voilà. Alors que ce n'était absolument pas le cas dans les prévisions de septembre dernier pour 2024. Et dans ce monde de baisse des taux, donc ça y est, hein, c'est l'open bar l'année prochaine, j'exagère, hein, les taux zéro, n'y comptez pas avant 5 ou 6 ans, mais en tout cas, ça va baisser. Et dans ce monde de baisse de taux, c'est dû à quoi ? La Fed nous mentionne à nouveau le core PCE inflation. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous expliquer que c'était l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed. Eh bien, elle tend tranquillement d'ici 24 mois à l'objectif de la Fed, sans hausse du chômage et sans récession. Vous avez ici les anticipations de croissance économique du PIB réel. Voilà donc la désinflation sans récession. La Fed y croit fermement. Le marché y croyait déjà. C'est pourquoi les indices ont remonté depuis fin octobre. Je vous en avais parlé. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Et maintenant, la Fed, elle a mis le tampon de la Fed en disant « Oui, nous aussi, on y croit. » Alors qu'en général, la Fed, elle cherchait à calmer tout le monde. Donc voilà, revenons tout d'abord sur les nouvelles perspectives de politique monétaire de la Fed. Le marché anticipe 3 à 4 baisses de taux. La Fed nous dit qu'il y en aura au moins 3. Voilà, donc la certitude, c'est que 5,50, c'était le taux terminal. Alors, cette désinflation peut-elle se faire sans récession aux États-Unis ? La Fed nous dit oui. Oui, la Fed nous le dit. La Fed, alors on a pu voir ensemble qu'il y avait des signaux d'alerte orange sur le marché du travail. Mais voilà, pour la Fed, ce ne sont que des signaux d'alerte orange, c'est-à-dire que ça peut repasser au vert. Donc la Fed ne s'inquiète pas. D'ailleurs, la semaine dernière, il est vrai que les inscriptions hebdomadaires au chômage retombent. Très bien. La mise à jour la semaine dernière des ventes au détail, ça rebondit. 4% en rythme annuel, c'est bien. Bon. Dans ce tableau, alors les indices PMI, c'est plus mitigé, mais je dirais que dans ce tableau, moi, ce qui me gêne quand même, c'est que l'inflation sous-jacente, elle est à 4%. Elle est à 4%. Mais la Fed nous dit que bientôt, elle sera à 2%. Bon. Pourtant, je vais vous montrer en détail, l'inflation des services, elle a cessé de baisser. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un risque ici, ou sinon, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que si la Fed nous annonce là des baisses de taux, 3 minimum, c'est qu'elle a compris qu'il y avait des vrais signaux d'alerte. Et elle veut pivoter avant la récession. Enfin bon, dans tous les cas, elle va pivoter. Voilà, c'est le pivot en 2024. Voilà, au moins ça. Ça maintenant, on peut se clouer ça dans la tête. Hein. Donc, la désinflation peut-elle se faire sans récession aux États-Unis ? L'importance de la consommation des ménages, l'indicateur des ventes au détail, et puis la mise à jour des PMI, ce sont des statistiques qui ont été mises à jour la semaine dernière. Alors, effectivement, Le consensus cette fois-ci, à l'instant je vous ai montré le tableau de la Fed, je vous ai montré ce que dit la Fed. Maintenant on regarde les anticipations des investisseurs de la haute finance, hein, c'est différent. Ces anticipations sont archi agressives, mais dans le bon sens. Pour 2024, vous avez là donc la fourchette des taux des Fed Funds et les prochaines décisions de politique monétaire de toute l'année 2024. Eh bien, d'après le marché, la Fed ne va pas pivoter le 31 janvier, le taux va rester à 5,50, mais la Fed va pivoter le 20 mars. Et ensuite, une succession de baisses de taux. Voilà donc, mais en même temps, cette fois-ci, on ne peut pas dire que le marché est présomptueux, puisque la Fed a dit qu'elle allait pivoter. Alors, elle dit qu'elle pivote, moi je suis prudent encore une fois, parce que je regarde les composantes de l'inflation, je vous mets tout d'abord l'inflation nominale. Elle est à 3,1. Bon, oui, la pente est baissière, 3,1, 2, c'est pas loin. Maintenant, on regarde l'inflation sous-jacente. Elle est à 4 et entre octobre et novembre, ça n'a pas baissé. Et j'y ajoute l'inflation des services. Ça baisse plus. 5,5 et 5,5 en octobre. Donc là, voilà, moi je crois bien sûr au scénario du pivot de la Fed. Vous le savez, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises en particulier de vous expliquer mon scénario bullish sur les obligations. D'ailleurs, je suis très content parce qu'elles ne cessent de monter du fait de la corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché. Mais là, je ne traite pas des obligations. Je vous ai assez ennuyé avec ce sujet qui reste par contre avec un gros potentiel en 2024. Donc moi, j'y crois au pivot depuis longtemps. Mais je suis gêné par cette quasi-certitude qu'ont certains économistes, mais pas tous, j'essaye d'en lire un certain nombre, et les économistes de la Fed, leur quasi-certitude que l'inflation des services passera de 5,5 à 2, mais sans récession dans les services. Alors, certains experts disent qu'effectivement, a priori, il n'y a plus de problème d'ajustement entre l'offre et la demande. Et dans ces cas-là, s'il n'y a plus de problème dans la chaîne logistique des services, why not ? C'est bien ça qui crée le déséquilibre et qui crée l'inflation. Donc, que le dieu de la bourse leur donne raison. Et dans ce cas, effectivement, le pivot interviendra pour ces raisons qui sont saines. Et c'est ça qui a permis au marché, au S&P 500, de faire au passage ma fameuse vague 5, qui a atteint son objectif de cours, ce dont je suis content, mais ce dont je vous parle en fin de vidéo, car vous avez vu le plan, la partie technique intervient à la fin de la vidéo. Alors, les ventes au détail, c'est bien, ça rebondit. Oh, c'est cool. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, ça rebaisse. Donc, effectivement, on peut croire à tout ça. On peut croire à ce schéma. Alors maintenant, on va traiter le sujet quand même. Le S&P 500 est-il trop cher? Alors déjà, le S&P 500, il est... Voilà, je suis content. Alors, le ABC, ça, c'est une hypothèse. Je la mets de côté. Mon scénario, c'était la vague 5. On y est. D'ailleurs, la vague 5, sa cible théorique, c'est 0,618 d'extension du bas de la 1 au sommet de la 3 au bas de la 4. Objectif atteint. Maintenant, je passe en neutralité. Je ne prends pas de risque, mais à un moment ou à un autre, il faut respirer. Et puis ce gap haussier sur le contrat futur qui a permis de dépasser la résistance des 4630 points, eh bien, le marché va avoir besoin de respirer. Mais ça, je traite ce sujet en fin de vidéo. N'y allez pas tout de suite. La partie la plus intéressante, c'est maintenant. Le S&P 500 est-il trop cher? Alors, il y a aussi toute la partie sur l'intelligence artificielle. Le S&P 500 est-il trop cher selon les critères de valorisation boursière? Alors, je vous rappelle que ce sont les bénéfices des entreprises qui permettent de déterminer si le marché actions est cher ou bon marché. On compare ce bénéfice des entreprises au prix des actions. Et c'est donc on crée des ratios. Certains ratios de valorisation boursière utilisent les bénéfices passés, d'autres les bénéfices futurs anticipés. Voilà. Alors, la méthodologie, c'est quoi? Je vais prendre un certain nombre de ratios de valorisation. Je vais comparer la valeur actuelle de ces ratios de valorisation avec la moyenne depuis 5 ans, avec la moyenne depuis 10 ans. Et pour chacune de ces moyennes, je ferai plus 1 écart type, moins 1 écart type. Je vous dis tout de suite, on regarde les 7. Mais grosso modo, tous ces ratios de valorisation sont au-dessus de la moyenne depuis 10 ans. Et certains atteignent même un écart type au-dessus. Donc c'est cher. Alors, pas tous les secteurs, rassurez-vous. Je ne vais pas simplement vous dire que le S&P 500 est cher. Hop, fin de la vidéo. Non. Je vous ai trouvé des secteurs pas chers, avec du potentiel pour 2024. Donc, voilà. Je vais quand même me mouiller un peu. Hein. Sinon, vous allez encore dire dans les commentaires que je ne prends pas de risque. Bon. Alors. Donc, ça, c'est la méthodologie. Maintenant, voilà ceux que nous allons regarder. Je vous les affiche ici. Le PE standard, TTM, le PE forward à 12 mois, le PE Schiller, le price to book, le price to sell, ce qui pour moi est sous-estimé, qui est à suivre. Le total market cap sur le PIB, donc c'est le Warren Buffett Indicator. On commence par lui. Le Warren Buffett Indicator, vous l'avez ici. Alors, dans sa version, total market cap sur le PIB et total market cap sur PIB plus les assets de la Fed. Total market cap sur le PIB est à 166%. Total market cap sur le PIB plus le total du bilan de la Fed, 130%. Et Alors, si on prend avec le bilan de la Fed, on est modestement surévalué. Par contre, total market cap sur le PIB américain, significantly overvalued. Donc, Warren Buffett nous dit que là, c'est une bulle. Mais ce n'est que Warren Buffett. Regardons maintenant les autres ratios de valorisation et faisons le travail dont je viens de vous parler. Tout d'abord, le price earning classique, qui compare le prix du marché au bénéfice des 12 derniers mois et depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nous sommes donc, le PE est à 25,65. Ici, c'est la moyenne. Là, c'est plus un écart type. Et là, c'est moins un écart type. Alors, d'ailleurs, regardez comme c'est passionnant. Le point bas d'octobre 2022, donc le point bas du S&P 500 ici, c'était pile poil quand on était sur moins un écart type. Eh bien là, nous sommes à 25,65. On a rebondi récemment sur la moyenne et on file à un écart type. Il y aura donc, je pense, un risque de vraie prise de bénéfice lorsqu'on sera à plus un écart type. Mais on est au-dessus de la moyenne, donc c'est relativement cher. Maintenant, si on regarde le PE de Schiller depuis 10 ans, qui compare le prix du marché avec la moyenne des bénéfices des 10 dernières années et pas seulement les 12 derniers mois glissants, eh bien là aussi, on est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas encore à un écart type. Donc c'est relativement cher, mais ce n'est pas non plus ultra, ultra surévalué, comme le dit Warren Buffett, par exemple. Maintenant, regardons le price to book. Alors là, alerte rouge. Alerte rouge. Le marché est largement suracheté selon le price to book, qui compare le prix du marché au bilan des entreprises. Alors, à l'actif des entreprises, en fait, c'est l'actif net. C'est-à-dire ce que détient vraiment l'entreprise. On lui enlève les dettes. Et ça se paye 4,43 fois. Donc là, on est. Alors, le point bas d'octobre 2022 s'était fait lorsqu'on s'approchait de la moyenne depuis 10 ans. Là, on a à nouveau dépassé un écart type. Ça commence à ressembler un peu à la bulle de fin 2021. Bon. Maintenant, le price to sales. Celui-là, je l'adore parce que les bénéfices, on peut toujours gruger, on peut toujours trouver des choses comptables pour arriver à un bénéfice. Les ventes, le chiffre d'affaires, ça ne ment pas. Et regardez comme c'est passionnant. Nous sommes. Alors, le point bas d'octobre 2022 avait été fait à la moyenne des 10 dernières années du price to sales, donc le prix du marché par rapport au chiffre d'affaires des entreprises. Et là, attention, on atteint un écart type au-dessus à 2,55. Attention donc. Attention. Maintenant, alors les rendements des bénéfices. Les rendements des bénéfices, on est à 4,10. On est à 4,10, alors que le taux obligataire américain à 10 ans, lui, est à 3,96. Donc oui, là, ça redonne un peu. Ça redonne un peu d'attrait pour les actions. Mais là, il n'y a pas de. Je dirais que c'était plus un rapport entre les obligations et les obligations et le marché actions. Donc, au final, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, le S&P 500 étant revenu au contact de son record historique, il est partout valorisé au-dessus de la moyenne depuis 10 ans. Certains, Warren Buffett, nous disent que c'est complètement une bulle. Bon, ça fait longtemps qu'il le dit en même temps. Bon. Et le price to sales tire une alerte rouge. Tout ça pour dire que le marché, là, peut sembler cher. Donc, il est primordial que les bénéfices anticipés, qui sont eux très élevés, se réalisent. Parce que ce que j'essaie de vous dire là, c'est que au stade actuel, avec les bénéfices de maintenant, le marché est déjà cher. Et d'ailleurs, on n'a pas regardé le PE forward. Vous voulez qu'on le regarde? On compare le prix du marché par rapport aux bénéfices futurs. Lui, ce sera le juge de paix. Si lui n'est pas cher et qu'en plus les bénéfices futurs se réalisent, là, très bien. On pourra aller à 5000 points sur le S&P 500. Si par contre, le PE forward est déjà cher, alors qu'on compare à des bénéfices qui sont eux attendus tout en haut, là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur sur les bénéfices futurs. Donc, je vous laisse découvrir tout de suite le PE forward pour le S&P 500. Tatin, il est là, le PE forward. Eh bien, alors attention, vous avez un PE forward qui est à 19. Vous avez en vert la moyenne depuis 5 ans. Et en bleu, la moyenne depuis 10 ans. Nous sommes, pardon, je vais arrêter de dire, nous sommes au-dessus de la moyenne depuis 10 ans et nous sommes égale à la moyenne depuis 5 ans. Sauf que la moyenne depuis 5 ans, je n'aime pas parce qu'elle est vraiment biaisée par ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire. Donc moi, je continue de raisonner sur 10 ans, c'est ce que je viens de faire, et on est quand même nettement au-dessus de la moyenne depuis 10 ans. Donc, même le PE forward est cher, alors qu'il compare le prix du marché à des bénéfices futurs eux-mêmes qu'on peut juger trop optimistes. Tout ça pour dire que il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Déjà, pour se maintenir à 4800 points, il faut vraiment, vraiment pas décevoir sur les tout prochains bénéfices. En tout cas, voilà, ça c'est un objectif technique atteint. Donc, mais la partie technique, je l'aborde tout à l'heure. Alors, bénéfices et chiffres d'affaires des entreprises en 2024, la clé de la tendance du marché action. Regardez ce graphique, il est passionnant. Vous avez ici les anticipations de bénéfices au début de chaque année. C'est l'histogramme rayé. Et vous avez en histogramme plein les bénéfices vraiment réalisés à la fin d'année. La tendance est globalement la même, mais assez souvent, les bénéfices réalisés en fin d'année sont inférieurs aux bénéfices anticipés en début d'année. Ce fut le cas en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, bon, quasiment tout le temps. Alors, surtout, d'ailleurs, c'est surtout le cas au moment de la crise sanitaire, et c'est même le cas les deux dernières années. Et là, regardez cet arbre énorme. Ce sont les anticipations de bénéfices pour 2024, complètement perchées. Et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ces anticipations de bénéfices pour 2024 sont complètement perchées, alors que le PE forward est déjà au-dessus de sa moyenne des 10 dernières années. Donc, pour que le S&P 500 se maintienne au niveau actuel, on est quasiment obligé d'avoir raison sur les bénéfices futurs. Alors que historiquement, lorsqu'on compare en rouge les bénéfices anticipé et en bleu ce qui s'est vraiment passé, c'était souvent trop optimiste. Donc moi je dis, c'est là, ça va dans le sens d'un marché action, je trouve, qui est globalement cher, trop cher. Par contre, le marché action, c'est pas un indice boursier, c'est plein d'actions, c'est une quantité de secteurs. Et heureusement qu'on va pouvoir trouver des actions et des secteurs, ça vaut encore la peine de les jouer. Et c'est pareil, vous prenez l'intelligence artificielle qui a des perspectives de bénéfices incroyables, je vais vous montrer ça dans un instant par secteur, les anticipations de bénéfices. Oui, bien sûr, on s'en fout qu'une star de l'intelligence artificielle soit chère, on s'en fout. C'est eux qui font de pognon, c'est eux qui font du cash. Alors, maintenant, il faut choisir la bonne. Alors, j'en ai trouvé une qui est moins chère que les autres. Bon, c'est ce que je vais essayer de vous indiquer dans la suite de la vidéo. Donc le S&P 500 se paye 19 fois les bénéfices anticipés pour l'année 2024, ce qui est dans la moyenne des 5 dernières années, mais au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Dans le passé, les profits prospectifs étaient supérieurs aux profits effectivement réalisés à leur prudence. Alors pourquoi un tel optimisme pour 2024? Certains mettent en avant les stars de l'intelligence artificielle, d'autres le pivot de la Fed. Ça, le pivot de la Fed qui est quasi certain, je vous en ai parlé en début de vidéo. Quels sont les secteurs du S&P 500 qui sont encore bon marché et avec une bonne perspective de profit en 2024? Alors là, j'ai voulu faire quelque chose d'intéressant. J'ai voulu croiser à la fois les anticipations de bénéfices par secteur. Donc vous avez les 11 secteurs au sein desquels sont rassemblés les 500 actions du S&P 500. Et vous avez donc, pour les valoriser, le PE chiller et le PE régulier. Et ici, les anticipations de bénéfices par secteur. On va donc essayer de choper les secteurs qui sont moins chers que le marché. Le marché, c'est la valorisation ici du S&P 500, qui sont moins chers que le marché avec des bénéfices estimés élevés. Vous comprenez la logique? On croise donc ces deux datas. On fait de la petite analyse quantitative. Alors, l'indice S&P 500 n'existe que parce que des actions composent. Elles sont réparties au sein de 11 super secteurs, sachant que les secteurs technologie de l'information et services de communication, alors c'est de là. Là, c'est là. Les stars de la tech et de l'IA, c'est là-dedans. C'est communication services et technologie. Bon, je vous rappelle que ces deux secteurs pèsent à eux seuls quasiment 40% du S&P 500. Donc forcément, oui, je sais que le S&P 500 globalement est biaisé. Ce qui est intéressant, ce que j'ai relevé, moi, c'est un certain nombre de choses intéressantes. Alors tout d'abord, au sein des secteurs où vous trouvez des acteurs de l'intelligence artificielle, clairement, il faut mieux vous tourner vers communication services que le secteur pure technologie. Le secteur technologie de la tech, se paye 45 fois les bénéfices des 10 dernières années, le PE chiller, et 40 fois le PE régulier, donc les bénéfices des 12 derniers mois. C'est nettement plus que le S&P 500. Alors que le price earning régulier de Communication Services, c'est 26. Donc c'est juste un peu au-dessus du S&P 500, mais on n'est pas sur du 40-45. Donc déjà, ça c'est la première chose. Maintenant, vous allez voir que dans ce secteur-là, il y en a des plus ou moins chers. Et c'est dans celui-là que je vous en ai trouvé une ou deux qui sont moins chères. Moi, je ferai quand même un pari pour 2024, qui serait le secteur de la santé. Alors déjà, parce qu'il est toujours, sur un support technique. D'autre part, je vais zoomer sur les datas. Regardez, les bénéfices anticipés pour le secteur de la santé en 2024, c'est le numéro 1. Regardez, là, vous avez les bénéfices anticipés pour le S&P 500. Moi, je m'intéresse à ceux donc qui sont au-dessus du S&P 500 ou ceux qui sont éventuellement en dessous, mais vraiment pas chers. Et donc, j'aurais tendance à regarder du côté des valeurs financières, surtout si les banques centrales pivotent, il y aura moins de risques de défaut des clients des banques. Et le secteur de la santé, parce qu'il y a vraiment des bénéfices anticipés très élevés, c'est plus du double que le S&P 500. Et regardez les stars de la tech, et les bénéfices anticipés qui sont déjà très élevés sont encore supérieurs au S&P 500. Donc on va essayer de taper là-dedans, dans ces trois secteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le secteur de la finance. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment pas cher. Alors, il y a eu des bonnes raisons. Il y a eu la crise bancaire de 2023. Très bien. Mais moi, j'estime que le risque est derrière nous, surtout si les banques centrales pivotent. Ce qui a mis en risque les entreprises, c'était le krach obligataire et l'augmentation du taux de défaut des clients parce que, avec les nouveaux taux d'intérêt, ils ne remboursaient pas leur crédit. Tout ça va s'estomper petit à petit. En plus, d'un point de vue technique, il y a un support. On a tenu une zone support importante sur l'indice sectoriel des valeurs de la finance. J'aime bien aussi le support de l'indice sectoriel des valeurs de la santé. Pour la santé, on anticipe beaucoup de bénéfices. Mais maintenant, regardez les valorisations. C'est vraiment pas cher. Pour le secteur de la finance, 16 un PE chiller contre 31 le marché, 13 le PE régulier contre 25 le marché. Maintenant, vous prenez la santé, on est valorisé PE chiller moins que le marché, alors qu'on attend des bénéfices futurs élevés. Et en plus, c'est un indice sectoriel qui a tenu un bon support. Je vais vous montrer tout de suite au niveau des indices sectoriels, parce que j'ai tout ici dans ce schmilblick. Voilà, moi j'aime bien le fait que la santé, elle a tenu son... C'est un bas de triangle, un bas de pattern. Moi, j'ai un scénario l'année prochaine de sortie par le haut de cette pattern, qui serait une grosse pattern de continuation haussière. Donc ça, j'aime bien la santé. Maintenant, si vous regardez... Alors, les stars de la tech, ok. Les stars de la tech, le marché est sur un nouveau record historique. Mais bon, eu égard au fait qu'il y a des bénéfices, que les anticipations sont bonnes pour l'année prochaine, je pense qu'il faut toujours être exposé aux stars de la tech. Les valeurs de l'intelligence artificielle, elles sont ici, dans ce secteur, Information Technology, et elles sont dans Communication Services. Elles sont dans Communication Services. Où est-ce qu'il se cache mon Communication Services ? Voilà. Donc, moi, je suis quand même plus à l'aise avec Communication Services. Et pour le secteur de la finance, oui, il est carrément sorti. On est sorti par le haut de cette configuration en triangle. Il y a vraiment du potentiel avant de rejoindre ici, avant de rejoindre les records. Et comme je vous l'ai montré à l'instant, c'est moins cher, c'est nettement moins cher que le marché. Donc voilà, ce sont des secteurs qui m'intéressent pour l'année prochaine. Maintenant, on va se concentrer sur le secteur de la tech et ces fameuses stars de l'intelligence artificielle. Les stars de la tech US et de l'IA sont-elles hors de prix en cette fin d'année 2023 ? Alors, ça, c'est une bonne question. Tout d'abord, je vous rappelle que l'année 2023 a été dominée par les large et méga cap. Là, vous avez un tableau qui vous croise la performance depuis le début de l'année des valeurs selon la taille de la capitalisation et c'est croisé avec les 11 secteurs dont je viens de vous parler. Et si vous regardez les large et méga cap, eh bien, là où il y a les plus grosses performances, c'est cette ligne-là, c'est la tech, et Communication Services. Voilà, donc c'est là où vous allez retrouver les leaders de l'intelligence artificielle. Je prends maintenant les fameux fantastiques du S&P 500. Vous avez ici Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Alors, et ici, vous avez donc la capitalisation boursière et là, le price earning régulier. le price earning régulier qui correspond ici à cette colonne. Là, vous avez l'information pour les secteurs. Le secteur de la tech se paye 38 fois les bénéfices des 12 derniers mois. 38 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Maintenant, vous pouvez regarder par titre en particulier. Bon, Amazon, 76 fois, un PE de 76. Nvidia, 62. Tesla, 78. Bon, et il y en a une qui est moins chère. C'est Google. C'est Alphabet. Alors, moi, j'aime bien. Disons que, bien sûr, il ne faut pas être all-in intelligence artificielle en 2024. Moi, c'est pour ça que je vous propose de vous exposer au secteur de la santé dans son aspect défensif avec des bénéfices futurs anticipés forts et pas trop chers. Le secteur de la finance parce qu'il est vraiment pas cher et je pense qu'il va profiter du pivot des banques centrales. Il faut rester exposé à l'IA, même s'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et au sein de l'IA, eh bien, j'aime bien Google. J'aime bien Google parce qu'il y a le potentiel encore d'aller rejoindre l'ancien record historique qui n'est pas encore rejoint. J'aime bien Google, Alphabet, pardon, mais c'est pareil, parce que le PE, c'est un PE égal au marché, il n'est que de 26. Et je crois beaucoup dans Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Il y a énormément de comparaisons qui ont été faites entre ChatGPT d'OpenAI et Gemini. Et Gemini est beaucoup plus performante en tant qu'instrument d'intelligence artificielle, quel que soit d'ailleurs le support, hein, écrit, vidéo, tout ce qu'on veut, que ChatGPT. Que ChatGPT. Donc, moi, je crois vraiment dans le potentiel de Gemini d'apporter du cash à Alphabet. Techniquement parlant, il y a encore du potentiel. Et c'est nettement moins cher. Voilà, donc ça, je pense que c'est un sujet sur lequel je vous invite à vraiment vous intéresser. Renseignez-vous sur Gemini. Vous allez voir, on trouve partout des tableaux qui comparent Gemini et ChatGPT. Donc, c'est, je pense qu'il y a un coup à faire encore. Et un coup à faire encore sur ce sujet. Alors maintenant, un mot technique, le S&P 500, alors objectif atteint. Alors bien sûr, S&P 500 versus S&P équipondéré, bien sûr que les stars de la tech, de l'intelligence artificielle donnent une vision biaisée un peu du marché. Je vous montre ça tout de suite. Là, vous avez donc le S&P 500 classique. Le S&P 500 classique, voilà, qui a fait cette fameuse vague 5, hein. Et qui est tout proche, donc c'est objectif atteint, d'avoir rejoint les records de début janvier 2022. Par contre, si vous regardez ce qu'on appelle le S&P 500 équipondéré, alors il est en phase de rattrapage, mais on est encore loin des records historiques. Mais oui, avec le rattrapage, notamment des valeurs de la value, tout le monde a en tête maintenant cet objectif-là. Et c'est probablement d'ailleurs quand le S&P 500 équipondéré aura rejoint cette cible ici, que le marché marquera une véritable pause. Vous avez un rattrapage des valeurs de la value. Le Russell 2000 est en train de sortir par l'eau de cet énorme pattern qui a été préservé en s'accrochant ici à l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Donc, effectivement, il y a du potentiel de rattrapage de ces valeurs dites de la value. Et donc, ça va aussi dans le sens de ce que je pense sur le secteur de la finance. Donc voilà, moi je ne serais pas surpris que le marché commence à prendre quelques bénéfices au contact ici des records, parce que c'est un gros niveau, parce que vous avez plus que jamais, je vous avais montré ça, et là on arrive vraiment en zone d'excès, un réservoir des acheteurs archi rempli selon le dernier sondage AAII. Donc à un moment ou à un autre, il va y avoir des prises de profit. Maintenant, est-ce que le S&P 500 sera capable de faire un breakout massif des 4800 points en 2024. Écoutez, à un moment ou à un autre, les anticipations, c'est bien. Maintenant, on aura besoin de constater non seulement d'une part que les entreprises font vraiment les bénéfices anticipés qu'on attend, et là, ça y est, on va rentrer en 2024, et d'autre part, l'inflation a vraiment intérêt de décélérer. La Fed, elle n'a plus tellement le choix maintenant qu'elle s'est positionnée sur des baisses de taux. Il va falloir qu'elle le fasse. Mais qu'elle le fasse pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation et non la récession. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous a apporté des choses intéressantes. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de Noël, du coup, hein, parce que c'est à la fin de la semaine. Et puis, à bientôt. Salut.